Radio Octopus. Écho des développements. Chers auditrices de Radio Capi, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho de développement, votre magazine de promotion de l'environnement et développement durable diffusé sur Radio Capi. Le numéro d'aujourd'hui brosse une carte postale du sanctuaire de Bonobo ou Lola ya Bonobo. Je suis Tati Mapoukou, cette émission est produite sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Jean-Noël Mokondo assure la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros des codes de développement.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Capi et au canal 573 pour Radio Capi Enfant. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est depuis plus de 10 ans que l'ASBL, les amis des bonobos du Congo, accueillent dans son refuge des bébés bonobos dont les parents ont été victimes de braconnage dans les différentes provinces de la RDC. Au terme d'un travail de soins vétérinaires et d'habilitation, ces primates sont par la suite réintroduits dans leur milieu naturel à Bikoro, dans la province de l'Équateur. Comment se fait le travail de réhabilitation des bonobos dans ces sanctuaires appelés en lingala Lola ya Bonobo? En quoi consistent exactement ces projets? Des plus amples détails dans ces numéros des codes de développement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous convions de suivre ces reportages que nous avions produits récemment dans les sanctuaires des bonobos.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
C'est vers 10h30 que nous sommes arrivés au sanctuaire Lola ya Bonobo, l'unique site à Kinshasa où vous pourrez rencontrer une race de singes qu'est les bonobos en semi-liberté. Le sanctuaire se trouve à Kimoza, dans la commune de Mongafula, dans un environnement boisé et adapté à l'accueil généralement des bébés bonobos dont leur mère aurait été victime de braconnage dans certaines régions de la RDC. D'après Fanny Minesi, directeur de l'ASBL, les amis des bonobos du Congo, ABC en sigle, deux projets sont développés en faveur des bonobos qui arrivent dans ce sanctuaire qui a une superficie de 4 hectares.
Je suis responsable des deux projets principaux de l'association qui sont le centre Lola ya Bonobo, ici à Kimwenza, où on accueille des orphelins, je disais, et l'aire protégée à 800 km d'ici, dans la province de l'Équateur, dans le territoire de Bassin Koussou. C'est une aire protégée de 50 000 hectares dans laquelle les bonobos qui sont réhabilités ici partent pour vivre leur vie en pleine liberté, dans la nature, dans un lieu qui est protégé.
Ce programme d'accueil des bonobos en état de dépression avancée et de réhabilitation physique et psychologique de ces primates remonte en 1994, précise Fanny Minesi.
Je suis la fille de Claudine André qui a recueilli le premier orphelin en 94 et avec lequel elle a commencé cette grande aventure. Donc je rencontre les bonobos grâce à ma maman qui pendant des dizaines d'années s'est battue pour créer ce centre où on est aujourd'hui, qui accueille les orphelins qui sont saisis par l'État congolais et qui sont victimes du trafic liée à la viande d'animaux sauvages. Et c'est elle aussi qui a fait la première réintroduction en milieu naturel de bonobo. Et donc, j'ai eu la chance, depuis mon jeune âge, de côtoyer les questions d'environnement et aussi les questions d'hommes liées à la protection de cet environnement-là.
Le sanctuaire Lolaya Bonobo comporte en son sein plusieurs cadres de travail, notamment une clinique vétérinaire, un espace de réintégration et de la mise en confiance des bébés bonobos qui arrivent généralement en état de détresse très avancé, un espace de socialisation et d'habilitation où ces primates vivent en semi-liberté avant leur réintégration au bout de 5 ou 10 ans de travail. Cette étape de réintroduction de ces primates dans leur milieu naturel à Dikoro, dans la province de l'Équateur, est caractérisée par les plaisirs du devoir accompli, mais également par la douleur de la séparation, affirme M. Jean, aide-soignant de bonobo dans ces sanctuaires.
Ça fait du bien, ça fait un peu du mal, puisque nous savons que c'est l'avenir du projet. Quand on fait une sélection pareille, quand il y a un bonobo qui part en sélection pour aller au milieu naturel, ça nous fait du bien, puisqu'à partir de là, il y a aussi des suivis. Quand je suis parti à la réintro, les revoir de nouveau, les bonobos, juste en criant « Allez !», ils ont vu que celui-là, c'est le nôtre. Et il me dit, 8 ans après, et puis il me regardait, et puis la façon dont il marchait dans Donc, il faisait des navettes dans la forêt. Donc, c'est une façon pour vous dire que vraiment, papa, nous vous avions vu. Et puis, moi, j'avais les larmes aux yeux, mais après un moment, c'est fini.
Le sanctuaire de Lolaya Bonobo ouvre ses portes aux visiteurs du mardi au dimanche tout au long de l'année. Vous venez là de suivre les reportages tournés dans les sites Lolaya Bonobo à Kimweza. Selon nos sources, le bonobo est l'animal le plus proche de l'homme. Ce primate a les gènes à 98% identiques à ceux de l'être humain, affirment les spécialistes. C'est une espèce endémique qui n'existe que dans la cuvette centrale des forêts du bassin du Congo, selon nos sources. Cependant, une étude des spécialistes atteste que son habitat naturel est en train de se fragmenter, occasionnant ainsi les regroupements de ces chimpanzés nains dans des endroits bien spécifiques du pays. Des solutions visant à protéger ces primates, considérés comme les cousins de l'homme, doivent être prises, soutient Fanny Minesi, directeur de l'ASBL, les amis des bonobos du Congo, ABC en sigle.
Le centre de réhabilitation accueille des orphelins qui vivaient en milieu naturel. Le fait qu'ils arrivent ici montre que la conservation in situ, la conservation dans les forêts, c'est pas, elle n'a pas les résultats qu'on espérait. J'aurais aimé vous dire que le dernier bonobo était arrivé il y a 10 ans et que depuis, on n'a plus de braconnage, on n'a plus d'arrivées et qu'un jour, je ferme le centre. C'est un espace dédié à l'éducation environnementale. Ce n'est pas le cas. Les bonobos continuent d'arriver. Ils sont encore sous une énorme pression. Nous n'avons pas assez travaillé. Est-ce que une partie de cet échec-là n'est pas due au fait que, dans la conservation de la nature, l'homme a toujours été mis au centre du problème et rarement à la solution, au centre de la solution? Est-ce que la vision qu'on avait de la conservation n'est pas responsable du manque de résultats qu'on a aujourd'hui? Les bonobos ne sont pas sortis de l'affaire. Nous n'avons pas une protection intégrale de ces bonobos. Il y a des bonobos qui vivent en dehors des aires protégées. On fait quoi? On les laisse? Alors sort? Donc, vous voyez que quand je dis ça, je ne veux pas condamner. Parce que on a tous notre pierre à l'édifice à apporter. Les gens qui travaillent dans les aires protégées, les centres comme les nôtres qui aident l'État à avoir une solution, les gens qui sont dans l'éducation environnementale, la sensibilisation, les gens qui luttent contre la malnutrition, la pauvreté, les gens qui traitent des questions de santé avec les maladies de zoonotiques, tout cela, il faut qu'on travaille en synergie si on veut avoir des résultats. Nous ne pouvons pas, étant donné l'urgence, faire chacun son petit truc dans son coin. Moi, je travaille ici, je regarde un groupe de bonobos dans tel parc et ce qui se passe au-delà des frontières du parc, je m'y intéresse moins. On a besoin de travailler en synergie parce que on va pas avoir le temps de faire chacun un petit truc dans son coin. On a besoin de tout le monde pour que le problème soit attrapé sur tous les fronts. Le problème des bonobos, c'est pas des gentils bonobos dans la forêt contre des méchants braconniers. C'est la pauvreté, c'est des gens qui cherchent un moyen de subsistance. C'est pas les villages qui exercent de la pression sur les bonobos. Quand tu rentres pour nourrir 15 foyers, c'est pas la même chose que quand tu rentres pour nourrir la ville de Kinshasa ou Lodja ou Mbandaka. Ça, c'est de la chasse commerciale. Cette pression-là, on peut pas, la biodiversité peut pas la supporter. Donc, il faut dépasser cette vision de c'est des méchants braconniers dans leur coin qui tuent des bonobos. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Je vais même vous dire, il y a des trafiquants qui, avec l'argent qu'ils tirent de la chasse, payent des études à des étudiants qui étudient le droit de l'environnement. On s'est retrouvé dans des contradictions comme ça, où les équipes, parce que nos équipes vont au-delà de Kinshasa, les équipes d'éducation vont dans les provinces sensibiliser les gens qui sont encore en contact avec des bonobos dans leur forêt. Et il est allé à Lodja. Et une des cibles, c'est la jeunesse, c'est les futurs décideurs de demain. Il faut qu'ils comprennent que la conservation peut être un levier de développement pour notre pays. Et c'est important qu'on s'attaque aussi à changer les mentalités dès le plus jeune âge sur la façon dont on perçoit notre patrimoine naturel. Et donc, notre éducateur s'est retrouvé dans une université à Lodja, avec une jeune dame qui a pris la parole et qui dit « Si aujourd'hui j'étudie le droit à l'environnement et la protection, c'est parce que mon père est un grand chasseur. Et il a payé toutes mes études avec ça. » Donc le problème, il est complexe. C'est pas des méchants contre des gentils.
Une fois sur le site, des mamans de substitution s'occupent des bébés bonobos qui arrivent généralement avec des traumatismes corporels, des problèmes de santé et des détresses psychologiques. Ce sont ces mamans de substitution qui font le suivi de ces bébés, un peu comme une mère le ferait avec son nourrisson en collaboration avec l'équipe des médecins vétérinaires employés par les projets.
Naza, maman de substitution.
Ça veut dire quoi, maman de substitution?
Donc, tout ça, on a besoin toujours de soins, il y a des orphelins, des orphelines, tout ça.
Donc, vous allez toujours remplacer, ben, maman n'a pas bon.
Oui. Toko makawa tongo, tout banda canabé, tout bon si la bango, maï na bango, parce que la ka au tiède, tout banda wana maï, tout bon si maï, tout ça, li bango, mili ki na bango, ba mela ba biberon. Et tout ça, li ba biberon na bango, tout souko li bango, tout fait si bango, mili ki. Après avoir possible ça, À partir de 9h, on a le premier nourrissage.
Constitué de quoi?
Il y a des bananes, il y a des cœurs de baie, pommes, il y a des arachides, canne à sucre.
Okay.
Il y a 9h. À 9h, on a le premier nourrissage à 11h. À 11h, on a le premier nourrissage à 11h, bananes, canne à sucre. Après avoir coulé à 11h, on a le premier nourrissage à 13h, on a le premier nourrissage à concombre. Ou bien oignon, l'eau va lire à 13h et à moi. À partir de 14h, il va lire à légumes. Il va lire à pointe, parc, rabite, écoute, écoute, il va lire à pointe.
Il y a
oui. Il va lire à mingue, à tige, à feuille, à lire à thé. Bango, à la banane, il va lire à tige. Il va lire à pé, ndembi, oignon, l'eau va lire à 14h et à moi.
C'est quoi, est-ce qu'on peut mettre l'habitude du solo tant au bandaki? Est-ce que c'est qui facile que bandi bayo ko baye bayo et ala rendenge ni ming ming pona ibandi
bon na ibandi li na sala no stage non tant na yo na sala stage à partir à stage wana bon tala ni par rapport ndengo travailler ba moni que non za capable ou sala musala ngo et après ndi baye ko retenir
est-ce que bazaka lokola bato ko to yebi ete partout bana mo ko kolinga mtu akoboya mtu ko vanda na yebi fo linga yo.
Bon, bango pende bazawana, toujours à bango le coup à bana, parce que bazawana orphelin. biso to remplacer ba mama na bango baza pe na ba caprice na bango ba salaka baza pe na ba caprice na bango mais eza na age moko ba koma na mon petit boko na bozo mona bloka o sala donc a komi deja na age moko boy o azo senga afanda susu awate ndo ko mona tuzwa ka bango ba ki na ba mpo ya mine donc baza pe na ba caprice ba sala ba caprice se zo dépendre pe na age mais mususu pe na kolo ba par exemple ndé na nemi o boy ikoza na muninga mso azawa na moni pato na simba simba ye
alingi po mema ye
pa lira na meme na simba pe na osala ndenge ni na zuye na che o mpanti na zipe nyama mso na mimi bango mi bale na ko rejete mususu tena mema ka moko na zi bango mi bale na fanji na bango le meme o na osala na ko kabola pe de maboko koto na simba o koto pe na simba
dites nous ça fait combien d'années que tu es dans ça tu fais ce travail et est-ce que tu aimes bien ce travail
3 ans ouais. 3 ans déjà.
Ah, est-ce que tu aimes bien ce travail?
La linga ou ma case.
Qu'est-ce qui te pousse à aimer ce travail?
Bon, premièrement, balbaka, et le cognon s'oppose à la ou madame Folingango. Donc, et le cognon est poussé à tellement la lingue en ouïe en salle. Donc, c'est un peu ça.
Ah, d'accord. Et la journée termine comment ici?
La journée ici, là, à partir, il y a. Bon, je suis tout le monde à 16h juste. Ah. Na bango, pour quitter la bango, à 15h50. Pour ba melaka le na tongo te ba melaka na
tapo OK
na poko to pesi bango le to koti bango na bakage biso to bongo
siko soki ba beli boye ba ndi
bon soki ba beli za ba thermomètre soit mo na musi pour mo na za la ki aktif au sakana pour mo na so ayelo na nzoto ala il faut nous colander ba ne ko sakana la li pourquoi ndé to koma ko simba ya de fois tezaka na maboko tango simbo sentir moi chaleur mokande bana na ndako za j'en a ba thermomètre a aussi thermomètre tié ndo ko eba peut-être soka zani na fièvre té tant msu se zana ngopé normal ba msu bazaba bon sali moi caprice na sepe la la lela yo mais tango to o tié thermomètre remarqué que non peut-être fièvre mati soit 38 2 38 comprendre que zana ndé to benga ba docteur to zana bango awa ba
médecin vétérinaire. Ok, merci beaucoup hein, de nous avoir donné ton témoignage.
Merci.
Voilà. Venez approcher. Bonjour.
Bonjour.
Vous appelez comment?
Maman Gladys Madila.
Gladys Madila. Bête la bise un peu le soleil à Moussa Nayo. Ah, on a cité à Lola et Bonobo.
Moussa Nanga, il est dans la bonne maman de substitution, maman remplaçante. Ba bonobo to remplacer ba maman na bango nde toujours que ça bango ba soin to ya kana tongo ko maman igete a lobi to ye ba 6h40 to bandi ben na biso na eau tiède to pesi bango lait na Cerelac ba me ba bibon na bango bien et puis nde to makara wa pona ko surveiller bango ko pesa bango ba nourrissage mosusu ya air mosusu.
Mais est-ce que bakaya nini ya brutalité dans la caté tant bozo zrana bango
bakaya brutalité bango na bango ou bien
oui bango na bango ou envers vous
et envers bino bon ça dépend hein ndek na oyo ba vu déjà ba avancé ba âge na bango déjà avancé ndé ba développé ça ya mucho sur ba brutalité mucho c'est quoi yo sala yo na ngamu yo sala musala
depuis combien de temps?
Oh, troisième année, non,
ok.
Siko, ce qui est au Nandaku, aux appels à Dibot, aux Anabana. Siko, au salaire, la différence, soit la Koué Biker, qui n'a rien à mon salaire, n'a zappé qu'à maman, mais maman, il y a substitution, il y a bonobo. Ce qui n'a zongi Nandaku, il y a commis maman à Banangai. Est-ce que, au vivre à Kayangon, ce qui est au salaire, la différence, soit l'Andingini? Bon, ils ont déjà. Comme ça n'a pas les bandes des acquis facilité au combien à bango à au passé la bango journée moulaï tant moulaï depuis tant si 16h passé la bango tant moulaï et on a fait tomber bango très bien oui bah comportement la bango un tel beaucoup naza boé le kenya za boé pour qu'il puisse l'anda pour éviter comportement la bien au fan dans la bango peut bien au message
mais est-ce qu'elle n'est pas en amour à bibi à bibi de la commune sur le bébé de la commune à goya
très bien goya.
Ok.
Ça va.
Dites-toi alors, quelles sont les difficultés, les difficultés que vous racontez à Namsa Nabino au quotidien? Est-ce qu'on peut avoir une idée?
Difficultés à face Mindi, Baza Banyama, Koloba. Koloba, c'est vraiment un mot qui est à la radio. Moi,
difficile. Malgré que tu es un peu de temps, vraiment bien, mais pour le bandit.
Ils vous font parler, en fait, tôt, c'est ça?
Oui.
Bon, Chika, Anti, Yaka, viens, l'aide.
Bobo, oui. Anika, n'a même pas.
Ok. Okay. Ah, tu aimes bien ce travail?
Oui.
Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir faire les stages ici? Tu as fait la biologie ou c'est par passion que tu es venu ici?
Oui, na sala biologie, oui. Et puis, kolinga banyama. Soyons msala au folinga, so linga ngote. Mingi ba yoka ba fister mingi aye ko tala biso amonde bazo mataboye amona yoka mino kele azo banga enga na kokate na kokate hein fo le nyamu te o supporter petit
boza ba mama boni
toza neuf.
Okay. L'ASBL, les amis des bonobos du Congo ABC en sigle, travaillent en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN en sigle et le ministère de l'Environnement et autres partenaires du secteur de la conservation de la nature, ajoute Fanny Minesi. Nous rappelons qu'elle est directeur de l'ASBL ABC.
On travaille en étroite collaboration avec le ministère et l'ICCN dans différents domaines. L'État est celui qui fait appliquer les lois. Donc le centre peut être aussi vu comme un instrument pour l'application de la loi, parce que une loi, c'est un bout de papier. Et vous voyez bien que les lois, c'est pas assez. Il y a des lois qui protègent les bonobos. C'est pas ça qui empêche qu'ils soient tués et qu'ils soient en train d'être vidés de nos forêts. Donc il faut offrir à l'État des solutions pour l'application des lois. Et l'OLA permet à l'État d'appliquer la loi qui protège les bonobos, d'effectuer des saisies et donne à ces animaux qui sont saisis une deuxième chance de retrouver la liberté. Donc notre mission, c'est une mission de service public. On travaille pour l'État. On a développé un savoir-faire et une expertise considérable. On a une équipe passionnée, dédiée et très compétente. À la fois dans la réhabilitation, mais aussi dans la réintroduction. Et l'État nous fait confiance. On travaille vraiment en étroite relation avec les experts du ministère et de l'ICCN. À travers les saisies, souvent avec le bras du ministère et les OPJ qui peuvent intervenir dans les zones où il n'y a pas d'éco-garde et qui peuvent faire respecter la loi dans ces zones-là et saisir les orphelins. Et à travers de la collaboration technique pour la gestion de l'aire protégée qui n'est pas gérée directement par l'ICCN, mais qui, bien sûr, entre dans ses préoccupations. Et donc, dans le cadre des deux projets, on est très liés aux autorités et aux organes compétents au niveau de l'État. On n'a malheureusement pas le même rythme que les braconniers. La réintroduction, c'est une opération très délicate. Aujourd'hui, il y a deux groupes de bonobos qui sont réintroduits à Ekolo et à Bonobo, l'aire protégée à Bassankoussou. Ils vivent de manière complètement autonome, se reproduisent, se nourrissent, utilisent leur territoire. Ils sont une trentaine d'individus, parce qu'il y a eu des naissances depuis. On a à peu près, pour l'instant, un bonobo qui s'ajoute chaque année. On espère que ce chiffre va augmenter avec le nombre de bonobos qui vont être mis en liberté. On est en train de préparer une nouvelle opération de réintroduction pour un nouveau groupe qui va retrouver la liberté à l'Équateur. Et on aimerait aller plus vite, mais vous comprenez que le processus est délicat et le rythme qui nous est imposé est à la fois celui des bonobos et de s'assurer qu'on fait les choses comme elles doivent se faire.
Quels sont les défis auxquels font face l'air protégé, l'Ola et Bonobo? Le directeur de l'ASBL ABC, Fanny Minesi, répond.
Bien sûr qu'il y a de nombreux défis. Je pense que pour accomplir des grandes choses, on a à surmonter des épreuves et il y a aussi des échecs. Je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre de ces échecs-là. On a la chance d'être né après toutes nos grandes sœurs des aires protégées. Notre aire protégée, elle est jeune. Elle a eu l'occasion d'apprendre aussi des erreurs de ses grandes sœurs et on a essayé d'être créatif pour mettre en place des mécanismes qui venaient atténuer les conflits hommes-faune. On a essayé de baser notre mécanisme de fonctionnement sur le dialogue, la communication, l'échange, la collaboration dans la gestion de l'air protégé, dans la prise de décision. On a voulu laisser l'accès à cet air protégé-là. On régule les activités qui vont dans un sens contraire à la protection de l'environnement. Donc oui, forcément, si vous pêchez à la moustiquaire dans une zone de ponte, vous allez avoir une équipe qui va venir vous sensibiliser de pourquoi ces techniques-là sont pas acceptables. Mais les gens ont accès à leurs ressources. C'est leur forêt. Ils ont accepté d'être les partenaires de la conservation, mais pas au sacrifice de ce qu'ils ont besoin pour survivre. Et je pense que c'est là la différence. C'est que on n'a pas besoin d'enlever quelque chose à l'autre pour survivre. On peut vivre ensemble à partir du moment où on respecte les besoins de chacun. Et après, les décisions, elles sont prises de manière collégiale. Alors, ça prend du temps. Ça met plus de temps que quand il y en a un qui impose son avis aux autres. C'est délicat. Oui, on a beaucoup à discuter et à trouver les mécanismes qui font que les décisions sont acceptables pour les hommes, pour les bonobos, pour la forêt, pour l'État. Pour l'État, parce que quand bien même on est une réserve communautaire, on est en RDC. Et l'État lui-même a des stratégies et des objectifs à atteindre en termes de conservation. Dans le cadre de la dernière COP, l'État de la RDC a pris des engagements très forts pour la conservation. Il s'est engagé d'ici 2030 à consacrer 30% de son espace à la conservation. Maintenant, le succès de cette stratégie va probablement découler de comment vont être gérés ces lieux-là. Est-ce que c'est des espaces qui vont enlever des droits à des hommes ou est-ce que c'est des espaces qui vont être pensés, organisés avec les gens, les hommes, les femmes, la jeunesse qui vit et qui dépend de ces ressources-là.
Les bonobos qui arrivent dans ces refuges portent généralement les noms des villes, des villages et des rivières de la RDC. En croire, Monsieur Jean, aide-soignant des bonobos dans les sites Lola Ya Bonobo.
Les bonobos, comme ils viennent, sont des orphelins. Ils portent les noms de nos villages, nos provinces, nos rivières. Il y a ceux qui sont nés ici, qui ont leurs parents propres ici, que l'équipe de santé essaye d'identifier. Je ne vais pas aller en détail trop. L'équipe de santé savent comment faire les analyses. Nous savons seulement le comportement et le donner les rapports. Ils peuvent être à 10 à 5. Si vous appelez, par exemple, Kalina, je prends l'exemple de Kalina. Kalina, vous connaissez bien, c'est l'ancien nom de Gombe. Mais Kalina connaît que c'est moi Kalina. Si ça appelle Katako. Katako qui connaît que ce n'est pas Kalina, c'est Katako qu'on appelait. Donc ils savent. Dès leur arrivée, ils ont des noms.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Rome.
Écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans Eco de Développement, le magazine de Radio Okapi axé sur les questions de l'environnement et développement durable qui fait la carte postale du sanctuaire Lola ya Bonobo, qui est un projet de réhabilitation et de réintégration des bonobos dans leur milieu naturel en RDC. Un suivi régulier et permanent des bonobos qui sont accueillis dans Lola ya Bonobo est assuré également par une équipe de médecins vétérinaires qui se relaie, affirme Dr Jonas Mukamba, médecin vétérinaire en chef de ces projets.
Déjà, le travail qu'on fait tous les jours, c'est d'observer les bonobos, leur état de santé. Et nous connaissons leur comportement. Et par rapport à leur comportement, ce sont des indices qui peuvent nous donner par rapport à leur état de santé. Donc, on peut avoir une idée par rapport au comportement qu'ils ont tous les jours. Mmh. Et lorsqu'on voit un bonobo qui est moins actif, ça nous donne déjà une idée et savoir si on doit l'isoler pour un traitement ou accentuer les observations.
Et une idée sur les pathologies les plus courantes parmi les bonobos qui sont en pension ici.
Ok, généralement c'est la grippe qui les tue comme pas possible. Et à chaque fois qu'on a un cas de grippe, il y a une solution qu'on fait ici. C'est le thé au citron avec du gingembre qui marche bien avec la grippe qu'on rencontre souvent. Et aussi, il y a des maladies digestives.
Telles que la diarrhée.
Telles que la diarrhée, mmh. Oui, causées par des parasites. Et il y a aussi une maladie virale qu'on n'a pas encore trouvé un traitement. C'est le virus Oui, ça MCV. Okay. Le virus myocardio-vasculaire.
Ici, vous avez des bonobos qui sont à l'âge de croissance, là où nous venons au niveau des mamans des mères nourricières. Ici, ils sont en semi-liberté. Comment est-ce que vous faites le travail dans les deux sites-là?
Déjà, les mamans qui sont les mamans de substitution, la nurserie, c'est la base. C'est la base. Tous les bonobos qu'on reçoit commencent par une quarantaine. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une quarantaine. Et après la quarantaine, il y a un temps bien déterminé. Et par rapport aussi à l'évolution du bonobo, c'est après la quarantaine qu'on envoie les petits à la nurserie. Donc le petit qui sont à la nurserie, et aussi après un certain temps, je pense à l'âge de 5 ans, 6 ans, et tout dépend aussi de l'attachement qu'ils ont avec leur maman de substitution, qui développe des comportements de liberté et d'exploration. Et ce sont des indices qui peuvent nous mettre à jour par rapport à leur intégration dans un enclos des adultes.
Mmh. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que vous avez connu aussi des cas de décès?
Ou des épidémies, par exemple, qui attaquent les animaux qui sont dans ces sites?
Oui, principalement, c'est on a perdu, il y a 3 ans passés, 5 bonobos du coup, à cause de cette maladie virale, EMCV, encéphalomyocardite virus. C'est une maladie qui n'a pas de traitement. Pour l'instant, on n'a même pas non plus un vaccin pour ça. Et à part ça, il y a aussi des cas récents de la grippe. On a perdu des bonobos à cause de la grippe. Et très rarement aussi à cause des diarrhées.
Alors, on dit des bonobos avoir partagé avec l'être humain 98% de leur ADN. Est-ce qu'il y a des maladies, justement, qui l'on partage aussi ensemble, qui se transmettent soit de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal?
Oui, il y a des maladies telles que principalement la grippe. Et sauf que, généralement, c'est nous qui contaminons le bonobo. Parce que le bonobo vit sans semi-liberté, sans entre eux ici. Et nous, en faisant les va-et-vient, c'est la raison pour laquelle nous sommes trop stricts avec les mamans de substitution. Et dès qu'une maman est grippée, on ne la demande pas d'entrée, on la donne quelques jours de congé maladie, jusqu'à ce qu'elle va se sentir bien. Pour des cas de diarrhée, généralement, c'est par rapport peut-être aux aliments. Il y a des diarrhées qui sont alimentaires et aussi il y a aussi des diarrhées pathologiques. Mais sinon, principalement, c'est la grippe. Je dirais que leur milieu sauvage, ils sont plus en sécurité dans leur milieu sauvage qu'ici. Parce qu'ici, ils sont très proches de l'homme. Et il y a plusieurs... leur état immunitaire n'est pas très développé comme ceux qui sont réintroduits. Et tous les bonobos qu'on a réintroduits ne tombent pas malades. Depuis qu'on a réintroduit ces bonobos, on n'a jamais eu un cas de maladie et tout. Et je pense aussi que c'est par rapport aux plantes médicinales qu'ils trouvent au milieu naturel, oui, dans la nature, qui permet de leur rendre un peu, de rendre leur immunité un peu très résistante par rapport à toutes les maladies qui peuvent.
Un travail d'éducation environnementale est aussi assuré à l'Olaya Bonobo du mardi au vendredi, précise M. Arsène, guide touristique du sanctuaire l'Olaya Bonobo.
C'est-à-dire, nous éduquons la population pour la protection des bonobos par rapport à ce que nous faisons comme déjà exemple ici à l'Olaya Bonobo. Ici, on arrive à partir des 8 heures juste déjà, on est là, on apprête un peu, nous avons une paillote éducative où on va installer les gens. C'est-à-dire, les visites commencent à partir des 10 heures juste. Et à 10 heures, dès que les 10 heures pile, les gens entrent, on va les installer. Ça sera la première visite. Les gens vont entrer, on les installe dans notre paillote, on fait une petite présentation pour montrer aux gens ce que nous faisons réellement comme travail ici avant la visite et on donne des instructions qu'on va respecter tout au long de la visite. Et après nous démarrons la visite, c'est dans la forêt, on marche avec les visiteurs, on palpe un peu la nature parce qu'on est, on va vivre dans la nature, on marche, on escalade des collines, tout ça, et on voit les bonobos, comment ils bougent dans la forêt, comment ils se déplacent. Et c'est vraiment agréable.
Et quelle est l'impression que ça renvoie, vous qui êtes guide touristique dans ces sites, des gens qui viennent ici pour la première fois?
En tout cas, ils sont vraiment émerveillés. Beaucoup de gens se disent, mais non, on ne savait pas même, il y avait un coin comme ça à Kinshasa, et pour trouver une forêt comme ça, un milieu trop calme, où on sent que le bruit de la rivière, notre rivière Lukaya qui est là, et puis on voit la forêt, on voit les sons des oiseaux, en tout cas, ils sont vraiment trop enchantés.
Et vous recevez les visiteurs, au fait, de quel jour, de quelle heure à quelle heure, et quelles sont les conditions?
Bon, en fait, d'abord, pour nous, la visite, c'est beaucoup plus dans le sens éducatif, c'est-à-dire dans la sensibilisation. Ça entre dans la... parce que nous sommes beaucoup plus dans la conservation. Et donc, on est ouvert chaque jour, du mardi au dimanche. Et la première visite commence à 10h. Donc, le programme, c'est 10h, la première visite. 11h30, la deuxième visite. La troisième commence à 13h juste. Et la dernière partie, c'est 14h30. Donc, une visite dure 1h30 maximum. En fait, les conditions, c'est juste que quand les gens se pointent là à la porte, ils vont remplir leur formalité à la caisse. Là, c'est juste 5$ pour les
nationaux,
les résidents, et 10$ pour les non-résidents. En fait. Et les enfants de moins de 12 ans ne payent pas, c'est gratuit pour eux, parce qu'ils doivent être aussi sensibilisés.
Ouais. Et par rapport à l'engouement, est-ce qu'il y a beaucoup
est-ce que
de
c'est assez visité,
qui viennent? Oui. Que c'est seulement les étrangers?
Bon, non.
Qui viennent d'ailleurs?
Bon, là, je peux dire qu'en tout cas, il y a plusieurs, plusieurs races qui viennent. En tout cas, c'est presque tout le monde, du monde entier, qui viennent ici pour voir le bonobo. Et les Congolais aussi, oui. Parce que nous avons eu un programme éducatif aussi pour les écoliers. En tout cas, surtout en termes des écoliers, en tout cas, il y a beaucoup de Congolais qui viennent pour visiter les bonobos. Et en termes des touristes aussi, en tout cas, je peux dire que c'est 50-50. En tout cas, il y a des Congolais et il y a aussi des étrangers qui viennent. Et beaucoup plus, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a plus de visiteurs, comme des périodes des vacances. On reçoit plus de visiteurs et aussi des périodes où il y a moins de visiteurs, pendant, comme cette période par exemple, comme il y avait la rentrée scolaire, tout ça, les gens s'occupent un peu de ses enfants, de leurs enfants. Mais beaucoup plus le week-end aussi, il y a toujours des gens qui viennent, beaucoup de gens.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci.
Rappelez-vous votre nom?
Arsène Madimba.
Parfait, guide touristique.
Oui, guide touristique.
Vous êtes là depuis combien de temps?
Je suis là depuis 2019.
Ok, ouais. C'est bon. Merci.
Merci beaucoup.
Le visiteur Tshipela Mukundi, à qui nous avons tendu le micro lors de la production de cette émission, encourage les touristes à visiter l'Olaya Bonobo, qu'il considère comme un sanctuaire magnifique dans la périphérie de la ville de Kinshasa.
L'Olaya Bonobo, bon, on s'est renseigné, hein, on a comme c'est un voyage de découverte pour nos enfants, donc il fallait qu'on leur offre aussi un aperçu touristique de ce que notre pays a à offrir, et en faisant des recherches à gauche, à droite. Bon, moi, j'ai pas mal d'amis qui sont déjà venus ici, donc le bouche à oreille, puis c'est des informations qui circulent maintenant sur Internet. Hein. Donc voilà, ça fait partie des sites touristiques à venir voir ici à Kinshasa, en bordure de Kinshasa. Donc voilà, c'était un plaisir pour nous d'être ici. Bon, ce qu'on retient, c'est premièrement la beauté de notre nature. Les explications étaient très détaillées, donc on comprend l'importance qu'il y a de conserver au fait notre patrimoine naturel, et les bonobos en faisant partie. Donc voilà ce qu'on retiendra. C'est vrai qu'à la fin de la visite, on nous a fait entrer dans une petite case en disant ouais, vous allez découvrir l'animal le plus dangereux du monde, et au bout du compte, on voit un miroir et on voit notre reflet. Ben oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si l'homme ne change pas de comportement, et ben toutes ces richesses naturelles seront amenées à disparaître. Donc c'est pour ça qu'il faut conscientiser déjà les populations, et ça commence dès le plus jeune âge, raison pour laquelle on est venu amener nos enfants ici pour que ils prennent la mesure de l'importance des actions qui sont menées ici.
Une centaine de personnes travaillent à Kinshasa et à Bikoro dans la province de l'Équateur dans ces deux projets de réhabilitation et de réintégration des bonobos dans leur milieu naturel, ajoute monsieur Jean. Il partage également avec nous son vécu quotidien dans le sanctuaire l'Olaya Bonobo.
Et comment ça se passe, votre quotidien ici dans les sites?
Dans les sites, normalement, nous avons plusieurs équipes à travailler. Moi, en tant que soigneur, je collabore souvent avec l'équipe de santé, avec le bien-être, avec l'équipe éthologique, pour donner des plans, le temps de les nourrir, de les observer, pour que la santé aille à voir comment se comportent les bonobos. Donc nous sommes vraiment au travail en collaboration. Et d'ailleurs, chaque jour, nous avons des observations à faire journalièrement avec des cahiers. Comme vous me voyez, j'ai un cahier ici. Nous écrivons tous les rapports avec les programmes. Donc tout ça se passe très bien.
Donc vous faites le monitoring au quotidien, vous suivez l'état de santé de chaque animal qui se trouve dans ces sites.
Pour ajouter, en quoi consiste exactement votre travail de soigneur?
Moi, mon travail de soigneur est d'étudier surtout les comportements, les observer et à voir comment ça se passe dans la journée, à manger, tout ce qu'ils font comme si c'était dans leur milieu naturel. Mais comme ici, nous sommes dans un sanctuaire, on essaye de tout autoriser et notifier à l'équipe de santé qui s'occupe normalement de leur santé.
Et là, on est en face du site où les bonobos sont en semi-liberté. Comment est-ce que vous suivez ces bêtes qui sont en face de nous, là, dans la forêt qui est en face de nous?
Oui, normalement, nous, avec nos observations que nous faisons, vous voyez d'ailleurs, la forêt n'est pas vraiment riche. Comme ce n'est pas riche, mais nous avons quand même des espèces végétales qu'ils mangent, comme dans leur milieu naturel. Alors, nous nous donnons aussi des suppléments en fruits, en légumes. Même il y a d'autres suppléments que nous leur donnons pour compléter le poids de chaque bonobo par jour. Puisqu'un bonobo adulte, souvent il mange 6 kg de nourriture par jour. Alors, nous, les comportements, s'ils sont dans la forêt, ils connaissent, ils entendent même nos voix. Et ils savent que celui-là, celui qui m'appelle, c'est un tel. Celui-là, c'est un soigneur. Celui-là, c'est un visiteur. Et d'ailleurs, quand ils se posent dans les arbres, dans des grands arbres, ils ont des éclaireurs qui voient, qui savent que ça sont des visiteurs, ça ce sont. Quand vous venez à 13h, il y a autre chose. Quand vous venez à 15h, il y a autre chose. Vous venez à 9h, il y a encore une autre chose.
Oui, et là, moi je vois votre attachement à ces animaux, à ces bonobos. Comment ça vous fait lorsque on sélectionne les bonobos qui doivent aller en liberté? Parce que là, on est en stade de semi-liberté.
Ce que nous faisons souvent, il y a plusieurs étapes. Vous voyez, il y a plusieurs enclos. On a trois enclos, il y a la nourricerie. Il y a d'autres, à partir de la nourricerie, ça c'est la pépinière. À partir de la nourricerie, il vient de l'enclos des grands. À partir de l'enclos des grands, les comportements, nous visons juste pour voir qui est qui peut partir accepter au milieu naturel. Puisque les comportements peuvent changer. Mais nous étudions les tout. On fait les analyses, vit les comportements, et nous faisons diviser les groupes. Et nous avons aussi quelque chose qu'on peut toujours faire pour choisir qui est qui peut partir.
Fanny Minesi, directeur de l'ASBEL ABC, conclut ce magazine. Elle nous parle des grandes activités qui sont développées en faveur des bonobos ici à Kinshasa et à Bikoro dans la province de l'Équateur.
J'aurais beaucoup aimé vous emmener jusque à l'Équateur. Vous aurez eu le bonheur de voir à quel point notre pays est magnifique. Les eaux noires de l'Équateur, c'est quand même un des plus beaux endroits au monde. Mais Lola est pas mal, hein, on se défend. Ici, vous avez plusieurs types d'activités. D'abord, le cœur de l'activité, c'est la réhabilitation de ces orphelins. Et donc, vous allez le voir, ils passent, quand ils arrivent, ils sont dans des conditions à la fois psychologiques et sanitaires terribles. Donc, il y a cette phase où on doit d'abord les prendre en charge sanitairement et à la fois veiller à ce que ils dépassent leur traumatisme. Et donc ça, c'est de la chimie entre à quel point les vétérinaires doivent suivre leur protocole sanitaire et à la fois le travail des mamans de substitution qui doivent donner de la confiance à cet être qui vient d'arriver, qui a vu sa famille découpée, boucanée, qui pendant plusieurs semaines a été en captivité dans des conditions difficiles, avec parfois des mutilations. On a des croyances dans notre pays qui pensent que de baigner un enfant avec un doigt de bonobo va donner de la vigueur aux enfants hommes. Et donc, on a des animaux qui arrivent dans des conditions psychologiques et sanitaires très très avancées. Donc il y a cette étape où les mamans et les vétérinaires font un travail extraordinaire pour que les petits aient juste envie de vivre. Il y avait très peu de bonobos en captivité, il y en a très peu parce que la clé de leur survie, elle passe par le transfert d'affection, l'amour qu'on leur donne et l'envie qu'on leur donne de vivre. Ensuite, après cette période-là de quarantaine où on s'assure qu'ils n'ont pas de virus, ni pour les gens qui travaillent ici, ni pour les animaux et les bonobos qui vont les accueillir après dans la nurserie, et qu'ils ont fait ce transfert affectif avec leur maman, ensuite ils viennent derrière moi, on appelle ça l'école de la nature, où d'abord ils vont être avec d'autres petits orphelins qui viennent de passer de la quarantaine à la nurserie. C'est au bout de l'âge, autour de l'âge de 5 ans, quand on sent qu'ils ont confiance en eux, ils ont récupéré goût à la vie, ils jouent, ils s'alimentent, ils explorent, ils commencent à se détacher de leur maman de substitution. Là, c'est le moment où il est temps qu'ils apprennent les règles sociales des bonobos. Et ça, nous, on peut pas le faire. Et donc ça, ils les apprennent dans les enclos, avec d'autres bonobos, qui leur apprennent comment on se comporte quand on est un bonobo et quelles sont les règles de la société bonobo.
Et là, ça prend encore 5 ans.
Là, ça dépend. La deuxième étape, c'est être sélectionné avec un groupe pour la réintroduction. Et donc, pour faire partie de cette sélection, pour être sélectionné dans un groupe, on sélectionne pas des individus. La réintroduction, c'est difficile. Et donc, on compte sur un groupe qui est déjà solide, déjà organisé, qui a déjà une stabilité. Ils ont déjà une confiance entre eux. C'est déjà une famille. Et les individus qui vont être sélectionnés doivent répondre à certains critères, notamment être capables de faire des nids, pas avoir des mutilations qui les empêchent d'évoluer dans une forêt marécageuse. On est dans des forêts de tourbe à l'équateur. Il y a parfois de l'eau jusqu'au cou pendant une partie de l'année. Donc il faut avoir des aptitudes physiques à rester dans les arbres. Il faut ne pas être dangereux parce que la réserve, elle est accessible aux hommes. Les hommes ont droit d'aller utiliser les ressources. Donc il faut pas avoir des traits de caractère trop dangereux pour l'homme. Il faut pas être trop attaché à l'homme parce qu'on veut pas des bonobos qui vont aller dans les villages pour avoir des contacts avec les hommes. Et donc, une fois qu'on a passé tous les voyants au vert, on est sélectionné avec son groupe. Là, une autre aventure commence. Ces bonobos quittent Lola et vont à 800 km. C'est une opération très, très délicate. On prend deux camions jusqu'à Njili. On voyage 800 km en avion, avec un seul avion disponible dans toute la RDC. Et je tiens quand même à remercier le soutien de Air Kasaï, qui est la compagnie aérienne qui nous transporte les orphelins gratuitement, à titre gracieux, qui nous aide. Parce que il a un avion, un Antonov 26, qui nous permet de charger les cages à l'arrière. Il y en a un en RDC, donc il faut qu'il soit disponible. On travaille en étroite collaboration avec les transporteurs aériens. Puis une fois que vous êtes à Bassin-Koussou, vous n'êtes pas encore arrivé à la réserve. Là, vous montez sur des canaux, des radeaux qu'on a fabriqués. Les bonobos font un voyage de 40 minutes sur l'eau, dans des cages de transport. Et ils terminent dans une île de quarantaine qui fait à peu près 60 hectares, où ils vont passer 6 mois, où on va s'assurer encore une fois qu'ils sont sans virus et sans danger pour la forêt. Et là, après 6 mois, on les fait retraverser la rivière pour être intégrés dans la réserve et qu'ils puissent évoluer sans intervention de l'homme.
C'est complètement fini pour ce numéro de code de développement consacré au sanctuaire des bonobos ou Lola ya bonobo, qui est un projet de réhabilitation et de réintroduction des bonobos dans leur milieu naturel à Bikoro dans la province de l'Équateur. Ce magazine vous a été présenté par Tati Mapoukou sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Jean-Noël Mokondo était à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une bonne suite, une très bonne suite des programmes sur Radio Capi.